Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire est racontée dans un épisode de l'émission This American Life qui s'appelle « La radio en temps de guerre ». Elle commence avec la rencontre dans un centre de désintoxication entre deux consommateurs de drogue, Chris et Dave. Le rêve de Dave, quand il sortira, c'est de faire du stand-up, de raconter des histoires drôles. Alors à la fin de la cure, une fois clean, Dave a l'idée de lancer avec Chris un podcast. Ils raconteront les pires conneries qu'ils ont faites quand ils étaient défoncés, les trucs les plus dingues ou les plus stupides. Ce sera seulement ça. Rien sur la désintox, pas de morale, de jugement, de trucs ennuyeux. Que des histoires de drogue délirantes. Ils appellent leur podcast « Dopey » comme « défoncé » et créent même une communauté qui s'appelle « The Dopey Nation ». Ils enregistrent le tout premier épisode avec les moyens du bord. Ça commence comme ça.
Hello and welcome to Dopey, a podcast about drugs and dumb shit. My name is David, and I'm with Chris.
Hello.
Au début, ils racontent donc leurs histoires de défonce préférées et ils se marrent. Le podcast est classé dans la rubrique comique par iTunes et les autres distributeurs de podcasts. Au bout d'une centaine d'épisodes, ils ont plus de 3000 abonnés et contre toute attente, ils découvrent que leurs histoires ne font pas que rire. Elles font du bien, elles soutiennent des auditeurs, des toxicomanes qui se sentent entendus, compris, paradoxalement pris au sérieux. Le podcast change alors de rubrique et passe dans la catégorie bien-être, développement personnel. Après 2 ans et demi d'histoires de défonce, plus ou moins drôles, racontées par 2 gars qui se présentent comme des dégénérés qui devraient probablement être morts, Chris commence à montrer des signes de lassitude. Il fait quelques bourdes, manque de rater un épisode, se brouille avec sa copine et se dispute avec Dave. Ce dernier s'inquiète pour l'avenir de leur podcast au lieu de se soucier de la santé de son ami. 3 jours après le lancement de l'épisode 142, pourtant, Chris est retrouvé mort d'une overdose. Avec ses proches, Dave découvre alors que son associé est retombé dans la drogue depuis probablement 2 semaines. Le podcast cesse d'être drôle et Dave de vouloir être un comique. Depuis, Dopey existe toujours, mais ce sont des entretiens plus posés autour de la drogue, avec de rares histoires de vétérans. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, on vous raconte quelques histoires dans ce genre, du plus bête au plus sérieux, en espérant que cette petite présentation vous aura averti des dangers mortels de la consommation de drogue. 3 histoires racontées par Clément Baudet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Pierre. J'ai 28 ans et je travaille dans le milieu musical, je suis chargé de production. Alors en fait, c'était il y a 2 ans, un été, je travaillais dans un label et un soir où j'avais bien bossé, j'étais bien fatigué, j'ai mes collègues qui passent me voir. Il y avait la numéro 2 France de la boîte qui était descendue ce jour-là, donc ils commençaient à se servir quelques petits verres. Je commence à boire un petit coup avec eux, et là j'ai une collègue qui m'offre un space cookie, c'est un cookie préparé avec de la marijuana. Et donc je le mange, elle m'en avait déjà donné, la fois d'avant c'était pas très puissant, donc bon, là j'y vais, il faut le temps que ça monte, donc bon, au bout d'un moment ça montait pas et j'avais faim, donc je lui demande si elle en a pas un deuxième. Et elle me dit si tu veux, tiens, prends-le. Et juste avant, elle me met en garde, mais fais gaffe quand même, parce qu'ils sont quand même plus forts que la dernière fois. Je dis oui, je le mange, je le deuxième. Et donc, sur ce groupe de 7 personnes, on était 3 en avoir pris. Et on commence à partir en quête d'un restaurant. Et plus on avançait vers le restaurant, plus je chantais que ça montait. Mais les autres, ils se doutaient pas, ils se disaient que les autres collègues, qu'on avait bu un petit coup, qu'on était contents de se voir, voilà. Donc on se pose au restaurant et on commande à manger. Moi ça continue à monter et ça faisait comme des vagues en fait où des fois j'étais complètement défoncé Et des fois, ça redescend, on se dit, ah, mais c'est bon, j'ai le contrôle et tout. Et en fait, paf, ça remonte et c'est de plus en plus. Et après, ça redescend de plus en plus. À partir du moment où j'ai commandé ma pizza, et le moment où ils l'ont amenée, j'ai vraiment eu l'impression qu'il s'était passé plus de 2 jours, quoi. J'étais complètement à l'ouest et je rigolais. Donc, la pizza arrive et je commence à dire, ouais, bon, je commence à me sentir un peu bizarre. Et là, en fait, je suis tombé par terre. Je me réveille au bout d'un moment. J'avais quelqu'un qui me mettait des petites claques. Il me dit, ça va, Pierre? Et tout. Je dis, ouais. Bon, je reviens un peu à mes esprits. Ça allait. J'étais toujours perché, mais ça allait bien quand même. En fait, donc j'étais par terre dans le restaurant. Donc, avec les gens qui me regardent en haut, c'est ma collègue qui m'avait donné le cookie. Vient me voir, s'accroupit, vient me voir à l'oreille, et direct, elle me dit, bon, je t'ai rien donné, hein, tu dis rien, je dis, oui, t'inquiète pas. Et en fait, le moment où je reprends un peu connaissance, il y a un chat noir qui me grimpe dessus, qui traverse tout le resto, en fait, qui truc qui n'arrive jamais, en fait, dans un restaurant. Le premier mot, en fait, c'est, oh, un chat. Et alors en fait, les pompiers débarquent et tout. Un premier pompier qui me dit, bon, comment ça va, machin, machin, est-ce que vous avez pris quelque chose? Je dis, oui, j'ai pris 16 verres. Bon, il m'emmène à l'hôpital et il me met sur un lit. Et là, un jeune médecin arrive, un peu cliché, très sûr de lui, qui me dit, bon, vous avez bu? Je dis, oui, j'ai bu 16 verres comme pour les autres, pour garder la version officielle, quoi. Bon, il part, il revient et aucun test d'alcool. Et il me dit, bon, je vois que vous avez picolé, monsieur, je vois pas pourquoi je vous garderai. Vous pouvez y aller. Et entre-temps, j'avais eu un message de ma collègue qui était venue avec la numéro 2 France, qui était en salle d'attente et qui m'attendait, quoi. Et je me disais, merde, je suis mort, je vais me faire découper en morceaux, quoi. J'étais toujours complètement perché. Je me lève, j'arrive vers un ascenseur, je descends, la porte de l'ascenseur s'ouvre, et la Big Boss arrive, et là, elle arrive, elle me fait, t'inquiète pas, malaise vagal, je connais, j'en ai fait plein, t'inquiète pas, ça va aller, il faut que tu te reposes. Et là, je me suis dit, c'est un miracle, il y a donc un Dieu. Et on est parti, on a déposé la numéro 2 France à son hôtel, j'ai dormi chez ma collègue. Le lendemain, j'ai aussi dormi toute la journée, je peux aller au boulot, exceptionnellement. Et au final, ça s'est bien terminé. Maintenant, on en rigole. À chaque fois, après, c'était oh, un chat, quand on voyait. Même le Big Boss France, quand il est arrivé, c'est la première chose qui m'a sorti en rigolant. Et c'est quand même un super souvenir au final, qui aurait peut-être pu, dans d'autres cas, se transformer en mauvais souvenir, en mal se terminer. Mais là, c'était vraiment, vraiment très, très drôle, quoi. Du début à la fin, et tout le monde se fout de moi avec ça maintenant, mais c'est quand même super marrant, voilà.
Je m'appelle Clément, j'ai 30 ans, je vis à Paris. Alors, ça commence donc en 2015, où je rencontre un mec qui s'appelle Victor. On se voit 3 soirs, où on boit et on fume beaucoup. Et je décide d'aller le suivre au Pérou, où il partait pendant un an faire un voyage humanitaire. Donc quand je l'ai rejoint au Pérou, très vite, il m'a évoqué une chamane qu'il venait de rencontrer, qui vivait dans la campagne de Urubamba, donc dans la vallée sacrée au Pérou. Et du coup, il me parle des cérémonies de San Pedro, donc elle pratique. Alors le San Pedro, c'est un cactus assez particulier que tu reconnais au nombre d'épines qu'il a. C'est la peau qui est décollée du cactus et cuisinée pendant 3 jours par une chamane. Mais avant, pendant 10 jours, il faut qu'on ne mange qu'un régime très strict que la chamane nous a dicté. Qui, grosso modo, en final, tu finis par manger des patates à l'eau pendant une semaine. Donc, tu fais 1 heure de bus et de taxi-brousse pour arriver dans un jardin hyper verdoyant avec une chamane qui était déjà assez abîmée physiquement, quoi. Donc, elle avait 50 ans, mais elle ressemblait à quelqu'un qui a 70, très maigre, Les cheveux en pagaille, un peu hippie, hyper souriante, mais illuminée, quoi. Et donc, on arrive dans son jardin. Et donc, on prépare une cérémonie. Donc, on est sous le soleil, il est midi. On s'assoit autour de la chamane. Et ensuite, elle appelle, donc, du coup, l'esprit, du San Pedro. Elle amène une marmite avec, tu vois, un liquide gluant vert dedans. Et un mug mini de Disney. Elle le met dans la bassine, elle le remplit du liquide verdâtre, et elle te tend le mug mini, et tu dois boire ce mug. C'était très très amer, très visqueux, quelque chose d'assez lourd, et donc tu mets une demi-heure à boire l'intégralité du mug parce que c'est vraiment infect et tu as envie de vomir à chaque gorgée. Une fois que tu as fini, tu donnes le mug à ton voisin qui lui aussi va le boire. Et donc là, on est quatre. On est Victor et moi et deux Américains d'origine indienne, Alma et Parvez. Et c'est ce mug qui va nous emmener pendant 12 heures quelque part. Chacun boit son mug. Tu t'allonges sur le sol, au soleil, et je guette le moindre signe de changement dans mes sens. Et là, tu sens qu'il y a quelque chose qui vient d'arriver sur toi, de prendre possession de ton corps. Tu sens une onde qui arrive sur ton visage et sur tout ton corps, et tout ton corps est très lourd et s'enfonce dans la terre. Et surtout, tous tes sens sont déréglés, c'est-à-dire que tu ne vois plus les couleurs que tu avais l'habitude de voir, qui commencent à se diffracter différemment, tu as l'impression de voir toutes les couleurs du soleil, et les fleurs, c'est pareil, commencent à irradier leurs couleurs, elles vibrent, et donc j'hallucine de la beauté du soleil et des plantes, voilà. Et donc j'arrive petit à petit à me lever, pieds nus dans l'herbe, humide, et délicieuse sous tes pieds, tu touches, tu caresses les feuilles. J'ai l'impression de redécouvrir en fait la nature, le monde, tout est magnifique. Je regarde les uns les autres qui, comme moi, sont complètement perdus et on se parle pas en fait, on fait chacun notre petit chemin. Alors, assez vite, je me retrouve avec Alma, l'américaine, sur une toute petite fleur violette qui irradie beaucoup plus que les autres plantes et on commence à regarder cette plante. Coller la tête au sol, et je sens cette fleur, et je visualise ma grand-mère. Et donc, je commence à expliquer ça à Alma dans un anglais assez approximatif. Et je lui parle de ma grand-mère, je lui raconte des histoires sur ma grand-mère, et elle, à côté, met sa tête dans le jasmin et me dit, bah, ça, c'est la mienne, viens, je te présente ma grand-mère. Donc, elle me met la tête dans le jasmin, et voilà, et je lui dis, ah, c'est magnifique, je vois ta grand-mère. Et donc, je voyage en Inde avec elle. On continue à visiter le jardin. Alors tout ça pendant le San Pedro de jour, qui dure quand même 12 heures, et tu as 6 heures de San Pedro de jour et 6 heures de San Pedro de nuit. C'est très très fatigant. Et donc au bout de 2 heures, moi j'avais commencé à regarder ma montre et je me disais, oh là 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 là, il reste 10 heures, mais comment je vais survivre à cette épreuve? Donc très vite, tu ranges ta montre et tu te dis, ok, ça se passera comme ça se passera. Donc au final, tu vois pas le temps passer parce que tu passes d'expérience en expérience. Donc il doit être à peu près 18h quand la chamane nous appelle et nous dit le soleil commence à tomber, le temps se rafraîchit, donc on va rentrer dans la maison. Et là commence le San Pedro de nuit, qui lui va être complètement différent bien sûr, dans la maison. C'était une grande maison construite en pierre qui était assez délabrée et assez sale en fait, de manière générale. Quand tu visites la salle de bain et les toilettes, t'es là, ok, je sais que je ne me laverai pas là demain matin, quoi. Donc on rentre dans la maison et puis tout est prétexte à fou rire. Avec Alma, on va se comporter comme des enfants. On mettait sur nos iPhones de la musique, on était là, ah, c'est génial. Et la chamane, elle nous a un peu engueulé parce que. Elle aurait préféré des chants traditionnels. J'ai le souvenir aussi qu'il y avait dans cette baraque un balai qui traînait et je ne sais pourquoi une perruque en plastique. On s'est déliré à faire les sorcières, mais notamment parce qu'on était dans la thématique chamane. Enfin, on prenait toujours ça avec un second degré aussi. Alors, la chamane n'était pas très contente, mais elle avait pas le choix parce qu'on était quatre et qu'elle était toute seule. Et donc, on jouait aux sorcières. Si tu veux, t'avais la citrouille, le balai, la perruque et deux homosexuels qui s'amusent à se déguiser et qui tournent autour de leur citrouille. Tout était prétexte à rien, ouais. Alors, nos corps commencent à se calmer, on est toujours très très fatigués. Donc, elle nous propose d'aller dans sa chambre qui était à l'étage. Et on découvre un canapé avec une télé. Donc, la chamane, au final, elle aussi se dévoile être occidentale, plus qu'elle n'y paraissait. Et des DVD qu'elle a achetés au marché noir. Donc, c'est des faux DVD de Sex and the City. Elle est passionnée de ça. Et donc là, elle commence à sortir de la weed locale qu'elle achète au mec du coin. Elle nous roule un joint et on commence à regarder Carrie Bradshaw, Sex and the City, qui va boire ses cocktails à New York en fumant un joint et en rigolant non-stop sur des blagues de femmes. Et donc ça s'est terminé un peu comme ça. Grosse rigolade devant la télé et puis après on va s'endormir. Le lendemain, on émerge, et puis c'est assez beau, parce que je suis dans un délire pendant 12 heures où j'ai l'impression que un esprit a pris possession de moi, ou en tout cas que je suis pas maître de mon corps, et je sais pas si je vais me réveiller comme j'étais la veille. Et puis tu te réveilles, et tout va très bien, et le monde a recommencé. Et en fait, très vite, j'ai cette pensée qui m'obsède, c'est d'y retourner, quoi. J'ai été dans un monde magnifique et magique, où j'ai tout redécouvert, et j'ai eu une expérience formidable avec des gens très bienveillants, et donc j'ai juste envie de recommencer.
Je m'appelle Nikos, j'habite à Athènes, j'ai 36 ans. Et je travaille dans l'image. Et donc, mon père est mort il y a un an. Donc, on a fait une crémation. Et mon grand frère m'a dit que ça serait peut-être une bonne idée de prendre des drogues hallucinogènes. Parce que ça pourrait... Il avait lu que c'était intéressant pour faire face au deuil, faire face à la mort. Donc, un an après... la mort de mon père, on s'était retrouvés en famille pour jeter les cendres dans la mer sur une petite île dans les Cyclades en Grèce. Et donc moi j'avais ramené deux buvards de l'SD, un pour moi, un pour mon frère. Donc c'est un petit papier avec des dessins un peu psychédéliques, ça n'a aucun goût en fait, tu le mets dans ta bouche et tu attends que ça se dissout. Donc, on a pris les buvards à 9h du soir. Ça commence à monter légèrement, on est bien. Tu le sens quand ça vient au début, c'est comme des vagues en fait, qui montent d'en bas jusqu'en haut. Ça te prend quoi. Mais ça vient petit à petit. Et tu commences à triper en fait quoi, tu vois des détails, tu casses un peu l'illusion de l'ego en fait quoi, et ça c'est hyper libératoire. Je me rappelle un moment où dans la maison, et il avait un mur rouge jaune, et je mettais le front sur le mur et je me fondais dans le mur en fait. Et le mur bien sûr, bah, il respirait, il bougeait et tout ça. Et je devenais un avec ce mur qui prenait vie. Et mon frère, il est bien, on met la musique. Et on se met dans la cour de la maison. On met des coussins et on se cale. Donc on se pose à deux et moi je sens des spasmes dans le ventre. C'est comme tu sens il a un truc en toi qui est un peu enfoncé, une émotion de l'histoire vécue sûrement, qui de temps en temps sortait en fait. Donc c'est assez angoissant. Mais de manière très spontanée, je dis à mon frère, là il faut que tu m'accompagnes, il va se passer quelque chose. Et du coup, je prends sa main et je me mets dans la position du bébé. Et le spasme commence à être hyper intense et je suis en pleurs totales et je perds conscience. Je vais ailleurs. C'est un truc très intense, très physique. Et du coup, c'est comme si après je me réveille de ça. Et je sentais comme si j'avais revécu ma naissance. Et mon frère, il était là et lui aussi, il est en pleurs en fait, quoi. On se regardait, waouh, c'est intense, ok. Et là, c'était un peu parti. Et du coup, je le remerciais. J'étais là, waouh, merci. Tu imagines même pas qu'est-ce que t'as fait pour moi, là, comment tu m'as accompagné. Il m'a dit aussi, lui, merci à toi, en fait, quoi. Tu m'as fait vivre aussi quelque chose que j'avais besoin, tu vois, de plaire, de sortir ça. Et c'est comme si les états de chacun, ils se mélangeaient complètement, en fait, quoi. Donc, ce que je vivais, il avait aussi pris, il avait vécu. Alors, moi, j'ai regardé mon frère, il est sur le portable. Et il regarde la bourse des États-Unis, quoi. Parce qu'en fait, mon frère, il travaille dans la finance. Donc, c'est un mec qui habite à Manhattan, qui gagne un salaire monstrueux et il investit l'argent pour des très riches. Donc, il est là, il est en train de regarder la bourse, comme ça. Et je dis, mais tu fais quoi? Mais ça te stresse pas, ça? Disons, boulot. Ah non, mais il m'a dit, c'est génial. J'adore, en fait. C'est comme un jeu, regarde. Il me montrait les trucs et il me dit juste, putain, il faut pas que j'écrive à des gens, là. Ça faisait 4-5 heures qu'on tripait. Et là, au bout de 4-5 heures, il me dit, ah, je suis fatigué, je vais dormir. Et je suis là, mais quoi, tu vas dormir? Mais attends, moi, je suis full, quoi, dans les tripes, tu vas dormir, tu vas me laisser seul. Donc, il m'a dit, bah, je suis là, si tu veux, tu me réveilles, quoi, mais je vais dormir. Donc, bah, il va se coucher. Et moi, je reste tout seul. Et là, en fait, ça commence, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis angoissé, ça monte, donc j'essaye de marcher, je vais marcher sur la colline, mais j'arrive pas, je regarde les plantes, je regarde les étoiles, parce que aussi avec les LSD, d'autres fois que j'ai pris, tu es très connecté, quoi, avec la nature, tu sens l'air, les feuilles, la terre, elle respire, mais là, il avait rien, quoi, c'est comme si tout mon trip, il était intérieur, quoi. Tout me ramenait à moi-même, en fait. Je voyais aussi des mémoires d'enfance, mais à cet âge-là, 8 ans, 10 ans, je voyais des amis, je voyais ma mère, je voyais mon père. À un moment, j'étais ma mère. J'étais plus moi, j'étais ma mère, j'étais mon père. À un moment, j'ai commencé à parler dans une langue incompréhensible. C'était comme si je perdais le langage. Donc, je commençais à parler sans mots, en fait, juste des bruits. Ça partait très très loin. J'avais hyper peur. Donc je me suis mis à 20 mètres de la maison, dont il avait un peu des champs. Et je me suis allongé par terre. Et j'ai recommencé à avoir des spasmes. Comme si j'étais en train de mourir en fait. Je voyais la mort. Et la mort c'était calme quoi. T'étais plus là. Et en fait je revenais. Là c'était pas calme. Donc, c'est un peu ça qui me faisait peur, en fait. Lâcher et revenir. Mais comme si chaque fois, il avait une corde qui me tenait, qui était élastique. Donc, je partais loin, 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 presque. J'étais mort, mais je ne lâchais pas, je revenais. C'était ça, en fait, qui me faisait peur. Peur de plus revenir, en fait, en état normal et retrouver la vie, en fait. Et je fais ça pendant peut-être 15-20 fois, en fait, quoi, dans la soirée. Donc, j'étais épuisé. Et donc, j'ai passé de 2h du matin à 9h du matin, 7h, à faire ça. Vers 9h, mon frère se réveille. Très bien. Et du coup, là, ça marchait pas, quoi. J'arrivais pas à communiquer, en fait, quoi. J'étais comme un zombie, en fait, quoi. Je suis à moitié là, à moitié je sais pas où, quoi. Avec l'idée dans ma tête, mais en fait, je veux pas revenir. Comment je veux vivre, en fait, maintenant? Donc, du coup, on part de la maison, on va rentrer chez ma mère, et on s'arrête pour se baigner. Je vais dans la mer, je plonge, et ça commence à reprendre, quoi. Je ressens mon corps, je sais pas, je suis un peu de nouveau là, et je suis plus dans cette intériorité. Je mets le masque et je commence à regarder l'algue, les poissons, et je reste peut-être 1h30 dans la mer, et c'est comme si je reprends vie, quoi. Ça m'a nettoyé. Et le soir, j'ai pu dormir. Mais maintenant, donc, ça fait 2 mois, et je sens que ça a été très, très constructif, en fait, parce que j'ai affronté une partie de moi, mais peut-être une partie de la vie aussi, avec une chose, qui est le LSD, où quand t'es dedans, t'as pas le choix de sortir, tu peux rien faire. T'es là, et tu dois faire face à ça. Et cette expérience, ça m'a donné la force, ça m'a fait grandir, ça m'a changé.
Dilly, this is love, put the snub in the holster. Spread love to the soldiers, not the ones in Iraq, but the ones separated by train tracks. And black on black is that the hood's the foundation, from Damu to Mason. My ex-girl zoned out and I got 2 replacements. I have no patience when it's beef, I choose to face it. And treat chicks like that kid from Brick City, got just blazing. When I flow, it's the coldest chip on my shoulder, I throw it. Every stage I blow it, you gotta seek it to believe it. It's phenomenal, haters I know it bothers you. The way I spit miracles, the way God'll do. No blasphemy for me. You need that New York heat? Ask for me. It's T.O.N.Easy. Grandma wish my brother was still alive so he could see his little bro spit gems to survive. To Osama, to Karma, Karma, chameleons in the game, claiming they spit flames. I douse the fire, slice your tire, smack you with a frozen Oscar Mayer. Bitch made sharp in my switchblade. You don't believe? Read about it, see me about it. You gangster, don't spit about it, be about it. Never a killer, but I lived and be around it. I seen the hardest nigga get his G rerouted. See me? I doubt it. Lyrically, physically, I'm the epitome of what a true MC should be. Feel the thunder under your feet when I speak. It's like War of the Worlds, and I'm Tom Cruise, you lose. Since the days of shell toes, I dealt flows and melt foes. Tone losing the battle? Hell no! My man Ray told me God's the answer. Rest in peace, my nigga. You was right.
C'était Quand tu commences à triper, des histoires de défonce racontées par Clément Baudet, réalisées par Emmanuel Geoffroy. Merci à Nikos, Clément, Pierre, Camille et à Stéphanos, attaché de production cette semaine, Mélissa Foust et Aurélie Marseille.